Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était surnommé l'homme le plus rapide du monde.
Jacques Chirac.
Ah non Stéphane, plus rapide encore et pas dans le même domaine. Lui était une légende de l'aviation américaine qui a marqué l'histoire en devenant le premier pilote à franchir officiellement le mur du son. Stéphane Bern serre sa ceinture, ajuste son casque et nous raconte Chuck Yeager.
En octobre 1947, au Murat Desert Test Center en Californie, l'histoire est faite par cet aircraft, le XF-1, et son pilote, Captain Charles D. Yeager.
Nous sommes dans le désert des Mojave en Californie. Un paysage de bout du monde, un décor parfaitement plat au sol de sable qui en fait une piste d'atterrissage naturelle. C'est là d'ailleurs accolé à un lac salé asséché que se trouve la base aérienne de Muroc. En ce 14 octobre 1947, Muroc n'est pas encore la base mythique qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de base militaire d'Edwards, le temple incontesté des essais en vol américains, le berceau de bien des premières fois de l'aviation. Premier vol de la mythique fusée-avion X-15, premiers atterrissages de la navette spatiale américaine. Elle n'est pas encore mythique, mais ça ne va pas tarder. Car ce matin-là, à 10h18 précise, alors que la chaleur est encore supportable, dans ce grand erg de l'Ouest américain, Muroc va faire une entrée détonnante, c'est le cas de le dire, dans l'histoire. Une vingtaine de minutes plus tôt, un gros porteur, un Boeing B-29, a décollé de sa piste. Sous son fuselage est accroché un drôle d'engin, un petit avion en forme de balle de revolver, une sorte de missile muni de petites ailes et le nez prolongé d'une longue aiguille. C'est un avion expérimental, le Bell XS-1. Un engin né d'un contrat passé entre l'AAF, les forces aériennes des États-Unis, le NACA, l'ancêtre de la NASA, et le constructeur américain d'avions de combat Bell Aircraft. Son but ? Récolter des données sur les conditions de vol à vitesse transsonique, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à celle du son, soit approximativement 1200 km/h, plus ou moins en fonction de l'altitude, ce qu'on appelle communément Mach 1. En effet, on avait remarqué à l'époque qu'en s'approchant de cette vitesse faramineuse, les avions militaires subissaient de très fortes turbulences, parfois même une perte de contrôle. Il devenait donc impératif d'étudier le phénomène en conditions réelles. Mais aucun avion jusqu'alors, en tout cas officiellement, n'avait jamais franchi cette frontière symbolique. Jamais jusqu'à ce jour-là. Car à bord du Boeing B-29 qui vient de décoller de Muroc, un pilote est bien décidé à réaliser cet exploit. Il n'en est pas à sa première tentative, oh non. Cela fait un peu plus de 2 mois que ce jeune intrépide de 24 ans enchaîne les vols d'essai. Il s'en est approché de près. Mach 085. Mach 092, Mach 0925. 4 jours plus tôt, le 10 octobre, il a même frôlé d'encore plus près. C'est aujourd'hui que tout va se jouer, tout le monde le sait, tout le monde le sent. À commencer par le jeune pilote, Charles Yeager, que tout le monde appelle Chuck. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'a pas prévenu ses supérieurs de ce qui s'est passé la veille. Lors d'une course à cheval, il s'est brisé les côtes. Mais pour lui, hors de question de renoncer à cette chance inouïe d'inscrire son nom dans les annales de l'aviation. C'est donc plié de douleur qu'à une altitude d'environ 1500 mètres, Chuck Yeager se glisse tant bien que mal depuis le ventre du Boeing B-29 dans l'étroit habitacle du Bell XS-1. Incapable de fermer seul le cockpit, il est même obligé d'appeler à l'aide un coéquipier. Mais ça y est, il est en place. Ne reste plus qu'à attendre le largage. 3000, 5000, 6000 mètres. Ça y est, le B-29 largue le XS-1. Qui fait d'abord une chute vertigineuse. Puis sans attendre, Chuck Yeager allume le puissant moteur fusée. Il le sait, il n'a que très peu de temps pour atteindre son objectif. À plein régime, l'engin a 2 minutes 30 d'autonomie à peine. Solidement harnaché, le pilote tire sur le manche et fait grimper l'appareil jusqu'à 13 000 mètres d'altitude. À mesure que la vitesse augmente, les vibrations se font plus intenses. Chuck Yeager commence à avoir l'habitude. Sans hésiter, il amorce alors un très léger piqué. Mach 0965. Dans le cockpit, tout tremble de plus en plus fort. Mais Chuck, plus déterminé que jamais, ne quitte pas l'aiguille du Mach-mètre des yeux. Elle ne bouge plus. Puis soudain, elle sort violemment de l'échelle graduée. Au sol, ceux qui attendent avec angoisse de savoir si la mission a réussi s'inquiètent d'entendre le bruit d'une gigantesque explosion dans le ciel.
And he does it. The first human to crack the sound barrier.
Ce bruit n'est rien d'autre que la preuve du succès du pilote. Lorsqu'un avion vole à une vitesse proche de celle du son, Les vibrations qu'il émet se superposent à l'avant de l'appareil pour former une énorme onde de choc. Chuck Yeager y est arrivé. Les instruments montreront qu'il a atteint la vitesse de Mach 1.06. L'homme le plus rapide du monde sera désormais son surnom. Bon, dans les faits, ce n'est pas tout à fait exact. Il semble que Chuck Yeager n'ait pas été le premier homme à atteindre cette vitesse symbolique. Plusieurs l'auraient franchi avant lui. Mais tous par accident et tous à l'occasion d'un pic vertigineux et non d'un vol horizontal. Le tout premier à l'avoir franchi sans y laisser la vie serait un ancien pilote de la Luftwaffe, un certain Hans Guido Mütke. L'épisode aurait eu lieu en avril 1945 à l'occasion d'un vol d'entraînement et d'un piqué vertigineux. Avril 1945, 2 ans avant Muroc donc, à cette époque, Chuck Yeager quant à lui vient de rentrer d'Europe où il a fait la guerre. Dans l'autre camp bien sûr, celui des Alliés.
C'est mieux.
C'est la guerre qui a fait de lui un pilote. Né le 13 février 1923 dans la petite localité de Mira en Virginie-Occidentale, Chuck est un gamin curieux et doué de ses mains. Mais issu d'un milieu plutôt modeste, il ne fait pas de longues études. Sans diplôme universitaire, il ne peut pas prétendre à une formation de pilote. Alors, après le lycée, à l'âge de 18 ans, c'est en qualité de mécanicien qu'il s'engage dans l'armée américaine. Nous sommes alors en septembre 1941. L'attaque de Pearl Harbor, 2 mois plus tard, va changer son destin. Entré en guerre, les États-Unis assouplissent les conditions d'accès à la formation de pilote. L'opportunité d'une vie pour Chuck Yeager. Lui qui rêve de servir son pays saute sur l'occasion de devenir un héros. Dans un premier temps, l'expérience n'est pas très concluante d'ailleurs. Car lorsque Chuck monte pour la première fois dans un avion, en janvier 1942, le jeune homme qu'il est alors vomit toutes ses tripes. Mais pas de quoi le décourager encore une fois. À peine plus d'un an plus tard, Yeager obtient son diplôme de pilote. Puis en novembre 1943, il rejoint le front de la guerre en Europe. Posté en Angleterre dans les rangs de la Royal Air Force, il n'a le temps d'abattre qu'un seul avion ennemi avant que le sien ne soit lui-même abattu au-dessus de la France en mars 1944. S'ensuit pour lui une fuite vers l'Espagne avec l'aide de Maquisard, puis un rapatriement vers l'Angleterre juste avant le débarquement des Alliés en Normandie. Bien décidé à rattraper le temps perdu, Chuck Yeager s'illustre dès lors comme un pilote hors pair. Le 12 octobre 1944, alors que les Alliés tentent une percée vers l'Allemagne, il abat 5 avions nazis le même jour. Grâce à lui, ce sont en tout 13 avions de la Luftwaffe qui subiront un sort funeste durant la guerre. Rentré au bercail en février 1945, Chuck épouse sa petite amie Glennis Dickhouse et accepte un poste de pilote d'essai. Un poste qui l'amènera un peu plus de 2 ans plus tard à franchir le mur du son, ce fameux 14 octobre 1947. Il n'a alors que 24 ans, rappelons-le. Ce fameux Mach 1 sera loin d'être son record de vitesse. En décembre 1953, il parvient à pousser son appareil au-delà de Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. Yeager passe ensuite le reste de sa carrière au sein de l'armée de l'air américaine, en qualité de colonel puis de brigadier général, participant notamment à la guerre du Vietnam. Une frontière lui résistera pourtant toujours, celle de l'espace. Faute d'un bagage universitaire, il ne sera jamais autorisé à rejoindre le corps des premiers astronautes, à son grand regret. Ce regret, il aura l'occasion de l'exprimer au cinéma dans L'étoffe des héros de Philip Kaufman, sorti en 1983. D'abord au travers de l'acteur Sam Shepard qui joue son rôle dans le film, mais aussi de sa propre voix. Peu le savent, mais le véritable Chuck Yeager tient un rôle dans le film. Il y campe un serveur, un tout petit rôle clin d'œil, mais qui lui donne l'occasion d'une réplique éloquente. Une réplique constatant avec consternation qu'un des aviateurs les plus doués du film a été privé d'espace, mais pas de postérité. Tout comme lui. Car Chuck Yeager, décédé il y a 2 ans à peine, à l'âge canonique de 97 ans, est resté dans l'esprit des Américains comme l'un des plus grands aviateurs de l'histoire.